Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alerte sur les prix des carburants. Sans plomb 95-98 diesel, la facture du plein est une nouvelle fois en train d'atteindre des sommets. Nous irons au Soudan où la contestation ne faiblit pas. Bien au contraire, les milliers de manifestants doutent de la sincérité des militaires qui ont succédé au président Omar el-Béchir. Dans ce journal, interview exclusive du général du Conseil militaire de transition. Les trottinettes sur les trottoirs, les bêtes noires des piétons. Les amendes commencent à pleuvoir sur les utilisateurs des petits deux roues. Et puis elles mesurent moins d'un centimètre, des créatures assoiffées de sang et souvent redoutables pour la santé. Les moustiques, le CNRS dispose à Strasbourg d'un tout nouvel insectarium, un laboratoire hyper sécurisé dédié à l'insecte et à ses virus.
Et à un mois du début de la Coupe du Monde féminine de football en France, Ali Badou, je vous le rappelle, reçoit la joueuse du PSG Grace Gueyoro et une ex-joueuse, Laure Boulot. C'est dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Voiture, diesel ou essence, personne n'est épargné en ce début mai. Les prix à la pompe, Laurence, continuent de grimper.
Pour le sans-plomb, comme pour le diesel, avec 1,59€ par litre, le prix du sans-plomb 95 retrouve son niveau d'avril 2013. Le 98 suit la même trajectoire. Le diesel augmente également, un peu moins vite. Il atteint 1,49€ par litre. Et la situation, Adrien Toffolé, pourrait continuer, car le contexte géopolitique et les taxes compliquent bien les choses.
Les cours de l'or noir subissent notamment les derniers coups de poker agressifs de Donald Trump à l'encontre de l'Iran. Depuis mercredi, embargo total sur les exportations du pays. Les États-Unis ont renforcé la pression sur le régime en mettant fin aux dérogations qui permettaient encore à 8 pays d'acheter du brut iranien. Et même si le président américain espère compenser la baisse de l'offre grâce à son pétrole de schiste et à la production de brut de son allié l'Arabie Saoudite, les marchés ne sont guère rassurés. D'autant que d'autres pays sont également sous tension. Le Venezuela, lui aussi sous embargo américain, ou encore la Libye et le Nigeria. Pour ce qui est des taxes, 60% du prix à la pompe et des milliards d'euros de recettes pour l'État français, l'idée d'une taxe flottante traînait dans l'air ces derniers jours pour adapter la hausse des taxes aux fluctuations des prix du pétrole. François de Rugy l'a balayé en début de semaine. Mais le gouvernement planche sur des solutions pour limiter cette hausse qui a des répercussions directes sur le porte-monnaie des Français et a de quoi alimenter la colère des gilets jaunes que les dernières annonces post-grand débat n'ont pas apaisé.
Adrien Toffolé, alors créé au plus vite un géant européen pour remplacer dans quelques années tous les véhicules à carburant par des versions électriques. C'est le projet européen détaillé de la France et de l'Allemagne qui a été détaillé donc hier par les ministres de l'économie des deux pays. Entre 5 et 6 milliards d'euros seront investis pour fabriquer des batteries automobiles de quatrième génération à partir de 2020. Elles roulent à l'électrique. Ce sont les trottinettes. Les ventes ont augmenté de 129% l'an dernier et dans le même temps, le déploiement en libre-service de ces engins continue de se poursuivre à grande échelle, entre 13 et 15 000 dans la capitale par exemple, mais il y en a aussi à Bordeaux, à Lyon, à Marseille ou encore à Nice. Reste que pour beaucoup de piétons, les trottinettes sont leur bête noire. On évoquait ce sujet de crispation hier dans la matinale de France Inter avec Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a rappelé la fermeté de la ville sur cette question. Il y a tout juste un mois, un plan de régulation a été lancé à Paris. Mise en fourrière, opération de verbalisation, comme hier sur les Champs-Élysées, la chasse à la trottinette contrevenante est bel et bien lancée, Delphine Evenou.
Sur les Champs-Élysées, la piste cyclable est pavée et en travaux. Les trottoirs sont larges et lisses, tentant pour le trottineur.
C'est interdit de circuler sur.
Les opérations de verbalisation sont quasi quotidiennes.
Vous avez une contravention pour avoir circulé sur le trottoir.
135€ pour tout le monde, même avec cette excuse classique.
We're just tourists.
Usagers étrangers ou français, plus de 200 PV déjà dressés depuis début avril. L'autre bataille de la ville de Paris, c'est le stationnement anarchique des trottinettes.
L'usager peut mettre en danger des personnes âgées, malvoyantes, parce que tout d'un coup, on a une trottinette en travers.
Michel Felquet, patron de la future police municipale de Paris, sort là aussi le carnet de PV.
Les gens qui nous voient verbaliser les opérateurs parce que les trottinettes sont mal stationnées, nous applaudissent. On a à peu près 100 trottinettes, un peu plus même, qui ont été envoyées en fourrière avec un procès-verbal à l'encontre des opérateurs de trottinettes.
35€ par engin à payer pour les entreprises. La moitié n'a toujours pas été récupérée. Il ne faut pas que de la répression, demande Bolt, l'un des opérateurs, Damien Desmith, manager.
Nous sommes en discussion avec la mairie de Paris quant à la création de stationnements dédiés pour ces trottinettes électriques en free-floating. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore. encore suffisamment pour l'ensemble des opérateurs.
2500 places trottinettes devraient être marquées au sol d'ici la fin de l'année dans la capitale.
Delphine Evenou. Marche arrière toute, retour sur l'intrusion de dizaines de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière lors du défilé du 1er mai. Un incident qualifié d'attaque par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Sa version a été battue en brèche par des témoignages, des vidéos visibles sur les réseaux sociaux. Il s'agit plutôt d'un mouvement de panique. Une trentaine de manifestants ont tenté d'entrer, sans doute sans le savoir, dans le service de réanimation, vraisemblablement pour fuir les CRS. Le parquet de Paris a indiqué hier que toutes les gardes à vue étaient levées. Qui sera finalement candidat aux européennes dans 3 semaines? Réponse ce soir à 18h. C'est l'heure limite pour le dépôt des listes au ministère de l'Intérieur. La campagne officielle pourra ensuite démarrer avec les clips télé-radio, l'envoi de professions de foi, les affichages municipaux. Sauf que tout ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et certaines candidatures n'auront pas les moyens de leurs ambitions, Maxence Lambrecq.
Jusqu'à 18h, n'importe qui peut déposer une liste Place Beauvau. Il suffit de réunir 79 signatures. Ça ne coûte rien et ça vous permet au moins d'exister un peu, de gagner en notoriété. Aux dernières européennes, il y avait 24 listes par région en moyenne. Ça allait de l'Alliance Royale au parti pirate ou animaliste, du Cannabis Sans Frontières à l'Espéranto. Ils ont tous frôlé les 0% pour une raison très simple. Ils n'avaient pas les moyens de produire et d'acheminer les bulletins de vote dans les 69 000 bureaux. Cela coûte environ 500 000 euros. Alors les listes gilets jaunes auront-elles cette somme? Car attention, si ces listes réunissent moins de 3% des voix, l'État ne rembourse rien. Certains candidats vont donc vous proposer d'imprimer vous-même votre bulletin de vote, c'est autorisé. Mais les petits partis font tout en ce moment pour réunir cette somme, quitte à ne faire aucun meeting, aucun tract. C'est le cas des Patriotes de Florian Philippot. Ce soir, sur la ligne de départ, il devrait donc y avoir une bonne vingtaine de listes, mais une douzaine seulement feront campagne et vous offriront le 26 mai leur bulletin de vote.
Il est 7h37, une foule immense hier à Khartoum, au Soudan.
Une nouvelle démonstration de force. Les opposants avaient appelé à une marche du million pour que les militaires transfèrent le pouvoir aux civils dans les 2 mois. Car ces manifestants se méfient, pour la plupart, du Conseil militaire de transition. Ils se disent prêts à négocier, mais dans le même temps, ils s'octroient de jour en jour davantage de prérogatives. Notre reporter Olivia Macadré a rencontré le général Salah Abdelralig de ce nouveau Conseil militaire de transition, le CMT. C'est une exclusivité pour les médias francophones.
Il aura fallu 8 jours d'intenses négociations pour obtenir cette entrevue. Dans le bureau du responsable communication du Conseil militaire de transition, nos questions sont scrutées, rayées, refusées à plusieurs reprises. On nous interdit d'aborder toute question en lien avec la politique ou la sécurité. Mais une fois la porte close, en tête à tête avec le général Salah Abdelralig, les langues se délient tout de même.
Okay, first of all, we'll never use violence.
Premièrement, on n'utilisera jamais la violence contre les manifestants. Et même les gens devant le quartier général de la défense, on ne leur fera jamais de mal.
Depuis plus de 2 semaines, des milliers de manifestants campent devant le ministère des Armées. Ils demandent un gouvernement civil et veulent s'opposer à la mainmise de l'armée sur les affaires soudanaises.
Ils ont besoin de nous, ils ne veulent pas de nous, je le sais, mais ils ont besoin de nous car ils n'ont aucune chance de pouvoir gouverner ce pays et n'importe quel pays, je pense. Ils ne savent pas gérer les situations très compliquées, les dossiers régionaux ou internationaux.
Si le général dit comprendre les revendications des manifestants, il fustige la désorganisation de l'opposition, responsable selon lui du blocage des négociations. À Khartoum, Olivia Macadré, France Inter.
En Inde, plus d'un million d'habitants évacués. Le puissant cyclone Fani est arrivé sur l'état d'Odisha, dans l'est du pays. Des vents de 175 à 180 km à l'heure. Fani devrait atteindre le Bengale et Calcutta demain matin. Ils sont partout, ou presque. Les moustiques tigres sont de retour et désormais installés durablement dans 9 nouveaux départements, dont Paris, selon le site de référence Vigilance Moustique. Aujourd'hui, l'insecte est dans les 2/3 nord de la France métropolitaine. Il menace de se répandre sur tout le territoire. Alors s'il ne faisait que gâcher nos vacances d'été, cela passerait encore. Mais le problème principal, c'est qu'il est vecteur de maladies. Régulièrement, d'ailleurs, les dom-toms connaissent des épidémies de dengue ou de chikungunya. C'est pour cela que les chercheurs s'y intéressent de plus en plus. Exemple à Strasbourg, où le CNRS a inauguré récemment un tout nouvel insectarium, un laboratoire hyper sécurisé dédié à l'étude des moustiques et des virus qu'ils transportent. Un laboratoire qui espère nous éviter les épidémies de demain, Solène Lehen.
À l'insectarium de Strasbourg, on s'y perd dans les espèces de moustiques.
Là, on a des cages d'adultes Anopheles et Aedes côte à côte.
Donc celui-là, c'est le paludisme. Celui-là, c'est Zika, chikungunya et dengue.
C'est l'inverse, mais oui.
Élevé dans de petites cages recouvertes de moustiquaires, il y a là plus de 40 000 spécimens. L'objet des futures recherches, cela va être de comprendre pourquoi certains moustiques dans la nature parviennent à se débarrasser, à éliminer naturellement les virus tels que Zika, le paludisme ou encore la dengue. Jean-Luc Himmler est directeur du laboratoire.
Ça, c'est une des choses qui nous intéresse beaucoup, c'est de comprendre pourquoi certains moustiques sont résistants et simplement essayer de voir s'il n'y a par exemple pas des paramètres en termes de bactéries ou de virus qu'abritent les moustiques qui expliquent pourquoi certains moustiques transmettent et d'autres ne transmettent pas.
L'espoir des chercheurs ensuite, ce serait de favoriser la prolifération de ces moustiques tigres sains, super résistants, au détriment des autres moustiques. Il n'y aurait alors plus de transmission de virus à l'homme et donc la fin du paludisme, de la dengue, Zika et autres chikungunya, des virus qui tuent chaque année des centaines de milliers de personnes dans le monde.
Et pour terminer l'événement musique de la semaine, la sortie du quatrième album de Vampire Weekend.
Après 6 ans de repos, le groupe new-yorkais revient en très grande forme. La formation emmenée par le chanteur-compositeur Ezra Koenig revient avec un double album très construit, 60 minutes de musique bien produite, un peu moins rock'n'dé que les précédents. Mathieu Culeron a rencontré le chanteur à Londres.
We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December.
En 6 ans d'absence, le leader du groupe Ezra Koenig a eu le temps de se poser des questions et d'accumuler des chansons. Après une courte hésitation sur une éventuelle carrière solo, il revient avec 18 titres dont la première moitié marque un tournant dans l'histoire du groupe.
Je savais que je voulais écrire des chansons différentes, quelque chose de plus narratif, de plus direct. Cette façon d'écrire me convient désormais. C'est une façon exotique et excitante de raconter des histoires. Vampire Weekend avait besoin de couleurs différentes et de chansons inspirées par la simplicité.
L'idée de faire un double album est presque devenue le moteur de ce nouveau disque de Vampire Weekend.
Je me suis mis à réfléchir aux disques qui m'ont inspiré. The River de Bruce Springsteen, Tusk de Fleetwood Mac ou Exile on Main Street des Stones. J'avais envie de faire ce type de disque, un album qui parle du fait d'être adulte et de la crise de la trentaine.
Vampire Weekend est arrivé à maturité avec ce Father of the Bride. Le groupe a conscience qu'il ne s'adresse plus à la jeunesse, même si l'on retrouve toujours les grands marqueurs qui ont fait la réputation du groupe.
Vampire Weekend en concert le 16 novembre prochain au Zénith de Paris.
On va y aller avec Yael Gauze. Et vous, Laurence,
avec
si vous
plaisir,
voulez
Nicolas.
Aussi. Merci, Laurence Thomas.